Podcast Lire aux éclats.
Voici, je fais toutes choses nouvelles.
Nous sommes dans une aventure incertaine.
Lire aux éclats.
Jamais 203, bienvenue. On est hyper heureux de vous retrouver pour ce troisième épisode du podcast Lire aux éclats du réseau Picpus. Dans vos oreilles, Camille, fidèle au poste, avec le frère Antoine. Et toujours dans l'équipe, Adé, Alexis et le frère Quentin.
On sait que l'été ne commencera pas vraiment pour vous si vous ne pouvez pas entendre la douce voix de Camille.
Oh.
Mais comment êtes-vous sûr que c'est bien Camille qui parle et pas un robot japonais ultra perfectionné? Eh oui, en fait, notre quotidien inclut plein de choses auxquelles on ne fait même plus attention, mais qui changent complètement notre rapport à la vie et à nous-mêmes. Comme le thème d'année, c'est de se renouveler, voici le sujet de cet épisode.
Les nouvelles technologies! Elles sont partout, et tant mieux, car c'est vachement pratique. Par exemple, mon aspirateur robot, je l'ai appelé Edgar, et il me sert aussi d'animal de compagnie. Mais ça ne nous dispense pas de réfléchir à l'usage qu'on en fait. On entend tellement de personnes qui plaquent tout pour vivre dans la nature, qu'on s'est dit qu'il était peut-être bien de savoir à quoi ça touche tout ça. Les gadgets peuvent-ils changer notre âme, en bien ou en mal?
Si c'est le cas, reprogramme Edgar, car la tienne semble prendre un peu la poussière.
Idiot! Toi, pour nettoyer ta langue, il faudrait revenir à du bon vieux savon de Marseille. Annonce plutôt l'épisode.
On écoute d'abord le professeur Emmanuel Brochier, philosophe qui va nous brancher sur le sujet. Puis, on va remonter aux origines avec un extrait de Victor Hugo sur le thème biblique des premières innovations technologiques. Ensuite, on va se téléporter.
N'en fais pas trop, hein.
Dans la banlieue de Londres avec des personnages d'Agatha Christie. Redescendre sur Terre avec l'impact écologique du numérique. Écouter des chants des Balkans retouchés et finir avec la traditionnelle Minute Spi qui va nous connecter avec la présence réelle.
Waouh, programme chargé! Ça nous fera tenir tout l'été. Décollage maintenant!
Lire aux éclats.
Emmanuel Brochier, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accueillir aujourd'hui dans les murs de l'IPC, donc la Faculté libre de philosophie et de psychologie, dont vous êtes le doyen depuis maintenant 2 ans. Vous êtes père de famille, mais on vous contacte parce que vous êtes docteur en philosophie et maître de conférences avec une spécialisation en philosophie de la nature. Et notamment, et peut-être que vous nous en parlerez, vous êtes spécialisé sur la question du transhumanisme dans la postmodernité. Nous allons parler aujourd'hui, dans cet épisode, de l'impact de la nouveauté apportée par la technologie sur nos vies, sur notre société. En quoi les technologies peuvent-elles nous renouveler ? Pour bien comprendre de quoi il s'agit, une première question. Qu'est-ce qu'on entend par le mot technologie ? Notamment, pourriez-vous revenir sur la distinction avec la notion voisine de technique, voilà, pour dégager un peu ce sujet ?
Oui, effectivement, on peut distinguer la technologie et puis la technique, sachant que par technique, on entend une connaissance. D'abord, la technique, c'est un savoir, un savoir-faire. Par exemple, si on fait des gâteaux, il y a une technique pour faire des gâteaux. On ne parlera pas de technologie. On pourra utiliser des technologies, peut-être, pour faire de la pâtisserie. Mais alors, à ce moment-là, ça implique que cette connaissance, eh bien, elle l'utilise, elle applique des connaissances scientifiques, élaborées scientifiquement. On parle alors de technologie quand les sciences sont au point de départ, en quelque sorte, d'application. Et la technique, alors, comme la technologie, vont permettre de transformer la matière.
Justement, vous parlez de façon bienvenue de l'aspect scientifique de la technologie, quelque chose qu'on pourrait poser comme objectif extérieur, en oubliant qu'elle peut nous impliquer personnellement et socialement, et donc nous changer par son usage. On envisage volontiers la technologie comme un catalogue de jouets, de gadgets. Est-ce qu'elle ne nous fait pas plutôt rentrer dans un autre mode de relation à soi et aux autres? On dit bien nouvelle technologie, qu'est-ce qui est nouveau au-delà de l'avancée scientifique? Est-ce que éventuellement vous pouvez nous donner des domaines humains qui sont sollicités, qui sont bouleversés par ce rapport aux nouvelles technologies?
Ah ben, je dirais la chose suivante, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on utilisait la technique et les technologies pour deux raisons principales. La première, c'était l'aménagement des espaces, de l'environnement, l'habitation de la Terre. Ça concerne alors à ce moment-là des choses qui nous sont extérieures, évidemment. Et puis, la technique et les technologies étaient là pour la santé, au service de la santé du corps humain, mais au service du soin, autrement dit. Aujourd'hui, deux choses, je dirais, ont changé. La première, c'est que désormais, le corps humain fait l'objet d'une transformation, sans que cette transformation soit motivée par le soin. C'est toute la perspective du transhumanisme. Et il y a un autre aspect qui est lié au transhumanisme, mais qui peut aussi en être dissocié, c'est cette idée de convergence technologique. C'est-à-dire que on a de grands domaines de la technologie, ce sont le domaine des nanotechnologies, donc au milliardième de mètre, la matière au milliardième de mètre, ce sont les sciences de la vie, la bio, les sciences de la vie, ce sont les sciences de l'information et ce sont les sciences du cerveau. Quatre domaines qui sont tels que les avancées dans l'un de ces domaines vont permettre des avancées extraordinaire dans chacun des autres domaines. Et on parle alors de convergence technologique qui accélère en quelque sorte le progrès. Et je pense que ça, c'est une chose nouvelle, c'est donc le rythme, la vitesse du progrès technologique.
En parlant de cette dimension de transformation un peu, finalement, on pourrait dire gratuite, on transforme, mais pour quelles raisons? Sans verser dans le positivisme, quels sont, selon vous, les grands champs de renouvellement dans le rapport au réel? Quels sont ces éléments les plus prometteurs?
C'est une question difficile parce que ça dépend comment on se place. Si on imagine, par exemple, les choses à partir du point de vue des transhumanistes, point de vue qui est problématique en lui-même, mais en tout cas qui devient de plus en plus dominant, ils estiment que la technique va permettre d'allonger la vie, d'éliminer davantage les handicaps, de changer la morphologie du corps humain, de régler le problème écologique. Certains disent que c'est par moins de techniques, moins de technologies qu'on réglera la crise écologique, et d'autres disent au contraire, c'est avec d'autres technologies, avec une empreinte carbone plus faible, qu'on pourra résoudre le problème technologique, écologique. Donc, c'est tous les grands sujets, en réalité, qui, me semble-t-il, se fédère autour d'un concept, d'une notion, qui est la notion de santé, telle qu'elle est définie dans la constitution de l'OMS, nous sommes après-guerre, et la santé est alors envisagée comme un état de complet bien-être, physique, mental et social, et la définition d'ajouter est non simple absence de maladie ou de handicap. Et donc je crois qu'ici, la technique, ce qui est vu comme prometteur dans la technique, c'est vraiment une libération. C'est vraiment ce qu'on a appelé jadis une émancipation par rapport aux contraintes sociales, naturelles. Sociales, par exemple, j'ai un autre exemple. C'est la langue, la barrière linguistique, par exemple avec les technologies qui permettent la traduction, qu'on croyait impossible il n'y a pas si longtemps que ça. Mais ce que je voudrais pointer surtout, c'est que dans ces choses qui sont là comme des promesses et qu'avancent les transhumanistes, finalement, on retrouve ce que déjà quelqu'un comme Francis Bacon, nous sommes au XVIIe siècle, vous voyez, comme prometteur à partir des sciences.
On voit bien qu'il y a une tension qui s'établit rapidement entre toutes les propositions pour accomplir cette émancipation, cette libération dont vous parlez. Et on peut constater souvent, quand on parle des technologies, qu'il y a cette dimension vraiment d'émerveillement, de tous ces possibles qui se dégagent. Mais on constate aussi un complet désenchantement dans le rapport au monde, un scepticisme plus affirmé. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce paradoxe ?
Oh ben je crois que les choses s'expliquent très simplement. C'est-à-dire que, d'un côté, qu'est-ce qui fait que ce sont des prodiges, en réalité, qui sont réalisés, hein, par l'intelligence humaine ? Je noterai que chacun des progrès technologiques que nous faisons, nous les faisons parce que nous connaissons mieux la nature, parce que nous imitons finalement des processus naturels. J'ai bien à l'esprit un exemple, ce sont les ciseaux génétiques qu'on appelle CRISPR-Cas9. On trouve ce dispositif déjà dans des bactéries marines. C'est la nature qui en a donné le modèle, en quelque sorte. Je pense que l'admiration, c'est comme un tableau qu'on admire, mais en réalité, il nous montre la nature, il nous représente la nature. Moi, je crois que la technique imite beaucoup la nature et que ce qui nous fascine, eh bien, c'est ce qui est déjà dans la nature. Moi, il me semble que le progrès technologique est la preuve que la nature est bien faite, qu'elle fait déjà toujours mieux que ce que nous faisons. Prenons un exemple pour être concret, le cerveau humain. Aujourd'hui, on estime, par exemple, je pense toujours à mes amis transhumanistes, que on pourra faire un jour une intelligence artificielle forte, c'est-à-dire plus compétente que l'homme dans tous les domaines. Dans certains domaines spécialisés, comme les échecs, c'est fait. Mais dans tous les domaines, ce n'est pas encore le cas, beaucoup en doutent. Mais ce que pensent les transhumanistes, c'est que c'est possible parce que la nature l'a fait. Elle a produit un cerveau humain et que si on imite, on pourra faire aussi bien, voire mieux, parce qu'on le fera avec intelligence et pas, disent-ils, simplement par le hasard et la nécessité d'une évolution. La nature est déjà bien faite, vous voyez, puisqu'on estime qu'on progressera si on imite davantage. On parle de réseaux de neurones, par exemple, vous voyez, ce qui montre que pour l'intelligence artificielle, on progresse, on fait mieux, mais parce qu'on imite la nature. Qu'est-ce alors qui pourrait nous inquiéter ? Eh bien, je crois que si on en reste au cas de l'intelligence artificielle, c'est de se dire, voilà, ne pourrions-nous pas avoir des intelligences artificielles qui prennent des décisions sans l'homme ? C'est le cas du robot tueur, où on pourrait déléguer la décision d'ouvrir, entre guillemets, décision bien sûr, d'ouvrir le feu sans qu'il y ait personne qui commande en quelque sorte cette ouverture du feu. Je sais qu'il y a, alors c'est peut-être maintenant encore que par accident, en quelque sorte, mais des algorithmes qui ont pu commander, par exemple, sur Internet de la drogue, alors qu'ils n'avaient pas été programmés pour cela. Autrement dit, la peur est quand même que ces dispositifs finissent par nous échapper. Et la peur est également que, et c'est vrai pour les nanotechnologies, hein, également, les conséquences, on n'est pas capable de les mesurer.
On a un certain renouveau de pratiques liées au spirituel ou à l'ésotérique qui sont vraiment dans une optique en apparence différente de ce rapport à la technologie où tout est cadré, où justement on a l'impression que tout est dans la nature, tout est posé, tout est bien fait et qu'on a juste à décortiquer la machine. Et pourtant, en pratique, on voit ce mouvement aussi un peu opposé.
Eh bien, oui, c'est-à-dire que je crois le grand risque de ce monde de la technique et de la technologie, c'est que l'homme y perde sa liberté, finalement. C'est qu'on puisse davantage connaître le cerveau et le contrôler. C'est qu'on puisse, avec l'intelligence artificielle, suivre l'homme dans ses faits et gestes les plus anodins. Qu'il n'y ait plus de distinction entre vie privée et vie publique, en quelque sorte. Est-ce qu'il y aurait des conséquences, d'ailleurs, politiques aussi, très très importantes. C'est qu'on puisse modifier le corps humain alors que, on peut s'interroger pour savoir si nous en avons le droit. Parce que dire que nous en avons le droit, c'est supposer en quelque sorte que le corps, notre corps, n'est qu'un instrument. Quel est son statut ? Si mon corps n'est qu'un instrument, alors je ne suis pas mon corps ? Alors mon corps, ce n'est pas moi ? Est-ce que, au contraire, il ne faut pas soutenir cette idée que le corps, c'est moi ? Et si je concède que le corps, c'est moi, mais que le corps est un instrument qu'on peut modifier au service de je ne sais quoi, alors à ce moment-là, je suis ce que les Grecs appelaient un esclave. Et donc derrière, il y a vraiment le statut de la personne humaine. Voilà ce qui peut effectivement interroger, indépendamment de tout ésotérisme. Ou, je crois qu'il y a une remise en question profonde de ce qu'est un être humain. Il y a une crise anthropologique derrière cette avancée. Autrement dit, le problème, ce n'est pas la technologie. Le problème, c'est la vitesse avec laquelle elle se développe, qui fait qu'on n'a pas le temps de discerner ce qui est bien le bon usage du mauvais usage. Et puis le problème, c'est finalement l'image que l'on a de l'homme. Est-ce que demain, l'homme ne sera pas comparé à la machine au point que bien penser, ce sera penser comme une machine, qu'on estimera peut-être qu'une machine est capable de prendre de meilleures décisions qu'un être humain, etc. Est-ce qu'on va pas... Jadis, on a délégué la force à la machine, n'est-ce pas ? Est-ce que demain, on ne va pas déléguer la pensée, la prise de décision à la machine ? Et alors, à ce moment-là, eh bien, c'est le statut même de l'homme qui est en question.
On voit bien, d'après tout ce que vous dites, qu'il y a vraiment cette idée d'exigence, de responsabilité dans cette puissance de la technologie, de la machine. Est-ce que, pour revenir à quelque chose de plus concret et plus quotidien pour nos auditeurs, vous pouvez nous donner, dans des domaines précis, ces éléments de conscience qu'on peut adopter par rapport à notre consommation habituelle de la technologie, que se dire, voilà, je me rends compte que ça, j'ai quelque chose à renouveler dans mon rapport et en moi-même, en changeant mon rapport à ces choses qui sont quotidiennes, qui m'entourent.
Oui, je dirais notre premier rapport aujourd'hui à la technique, ce sont les écrans. La technologie, aux produits de la technologie, ce sont nos rapports aux écrans qui changent nos manières de faire, que ce soit dans la connaissance, dans la communication, les relations avec les autres. Et je crois que, il serait regrettable que de n'être en relation que par cet intermédiaire, hein, ces intermédiaires que sont les écrans, même s'ils facilitent souvent les choses. Et je crois qu'il faut, quand il y a une technique, redoubler en vertu, en quelque sorte, et apprendre l'importance de la présence réelle. L'importance du contact plutôt que du sans-contact. Je crois que le risque, sinon, c'est un mépris du corps, en réalité. Parce qu'on est dans un imaginaire, on est dans un ressenti, et on n'a plus le sens des contraintes, de la présence, qui n'est jamais idéale, qui n'est pas du marketing, qui est la réalité. Et je crois qu'il faut vraiment intégrer dans notre éducation. Et puis ensuite, quand on travaille dans notre vie professionnelle, des pauses, il y a vraiment un art de vivre avec la technique qui consiste, je crois, à apprendre à s'en passer. Un peu comme pour l'alcool. Je pense qu'il est bon de consommer de l'alcool à condition de ne jamais en être dépendant. Eh bien, je pense qu'on pourrait avoir à peu près le même rapport avec la technique.
Pour conclure ce propos très riche, est-ce que vous auriez, pour ceux qui nous écoutent, une lecture, une exposition, un événement, bref, quelque chose qui puisse éclairer ce terme ?
Beaucoup de choses, tout dépend en fait, il y en a pour tous les niveaux. Moi, ce que je pourrais conseiller, c'est pas simplement, c'est vraiment de se former. Je crois qu'il y a besoin de prendre le temps de se former. Il y a besoin de prendre le temps, d'arriver à mettre des mots, d'arriver à expliquer ce qu'est un être humain. Parce que le débat de demain sera un débat pour savoir s'il y a ou non une différence forte entre la machine et l'homme, l'animal et l'homme, et je crois que cela suppose dès maintenant de travailler, de pouvoir se former pour avoir une vision, pour vraiment prendre conscience et avoir une conscience qui ne relève pas simplement de la foi. parce qu'il faut pouvoir partager cette vision de l'homme, eh bien, avec des gens qui n'ont pas la foi chrétienne, catholique, par exemple. Je crois qu'il faut donc pour cela se former, notamment l'IPC, dans ce sens, propose des cours tout public. Je vous invite à y participer.
Merci beaucoup, Emmanuel Brochier, pour tout ce développement qui, je pense, fera tous réfléchir sur notre consommation quotidienne, à commencer par nos portables et notre rapport aux autres avec cette présence réelle qui est bien sûr au cœur de notre réseau Picpus et de la Congrégation des Sacrés-Cœurs. Merci beaucoup encore, Emmanuel Brochier.
Merci beaucoup.
La conscience, Victor Hugo.
Lorsqu'avec ses enfants vêtus de peau de bête, échevelés, livides au milieu des tempêtes, Caïn se fut enfui de devant Jéhovah. Comme le soir tombait, l'homme sombre arriva.
Au bas d'une montagne, en une grande plaine, sa femme fatiguée et ses fils hors d'haleine lui dirent « Couchons-nous sur la terre et dormons. » Caïn, ne dormant pas, songeait au pied des monts.
Ayant levé la tête, au fond des cieux funèbres, il vit un œil, tout grand ouvert, dans les ténèbres, et qui le regardait dans l'ombre fixement. « Je suis trop près, » dit-il avec un tremblement. Il réveilla ses fils dormants, sa femme lasse, et se remit à fuir sinistre dans l'espace.
Il marcha 30 jours, il marcha 30 nuits. Il allait, muet, pâle et frémissant au bruit, furtif, sans regarder derrière lui, sans trêve, sans repos, sans sommeil. Il atteignit la grève des mers dans le pays qui fut depuis Assur.
Arrêtons-nous, dit-il, car cet asile est sûr. Restons-y. Nous avons du monde atteint les bornes. Et comme il s'asseyait, il vit dans les cieux mornes l'œil, à la même place au fond de l'horizon. Alors il tressaillit, en proie au noir frisson. « Cachez-moi » cria-t-il. Et, le doigt sur la bouche, tous ses fils regardaient, tremblait l'aïeul farouche.
Caïn dit à Jabel, père de ceux qui vont sous des tentes de poils dans le désert profond, étend de ce côté la toile de la tente. Et l'on développa la muraille flottante. Et, quand on l'eut fixé avec des poids de plomb, « Vous ne voyez plus rien, » dit Scylla, l'enfant blond, la fille de ses fils, douce comme l'aurore. Et Caïn répondit, « Je vois cet œil encore. »
Jubal, père de ceux qui passent dans les bourgs, soufflant dans les clairons et frappant des tambours, cria, « Je saurais bien construire une barrière. » Il fit un mur de bronze et mit Caïn derrière. Et Caïn dit, « Cet œil me regarde toujours. »
Enoch dit, « Il faut faire une enceinte de tours si terrible que rien ne puisse approcher d'elle. Bâtissons une ville avec sa citadelle. Bâtissons une ville et nous la fermerons. »
Alors, Tubal-Caïn, père des forgerons, construit une ville énorme et surhumaine. Pendant qu'il travaillait, ses frères, dans la plaine, chassaient les fils d'Enos et les enfants de Seth. Et l'on crevait les yeux à quiconque passait. Et le soir, on lançait des flèches aux étoiles.
Le granit remplaça la tente au mur de toile. On lia chaque bloc avec des nœuds de fer. Et la ville semblait une ville d'enfer. L'ombre des tours faisait la nuit dans les campagnes.
Ils donnèrent au mur l'épaisseur des montagnes. Sur la porte, on grava « Défense à Dieu d'entrée ». Quand ils eurent fini de clore et de murer, on mit l'aïeul au centre en une tour de pierre. Et lui restait lugubre et hagard. « Ô mon père, l'œil a-t-il disparu ?» dit en tremblant Scylla. Et Caïn répondit « Non, il est toujours là. »
Alors il dit « Je veux habiter sous la terre, comme dans son sépulcre un homme solitaire. Rien ne me verra plus, je ne verrai plus rien. »
On fit donc une fosse, et Caïn dit « C'est bien. » Puis, il descendit seul sous cette voûte sombre. Quand il se fut assis sur sa chaise dans l'ombre, et qu'on eut sur son front fermé le souterrain, l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Après avoir entendu ce passage de Victor Hugo, on peut se poser la question suivante. Quel impact a la technologie sur nous ? On peut constater que Victor Hugo nous fait comprendre que l'homme ne peut se libérer de ses remords en fuyant. La conscience humaine apparaît donc comme une image obsédante, tel cet œil qui ne cesse de regarder Caïn comme s'il le jugeait. On peut le comparer à cet œil que Dieu a sur nous. Il aborde ici un thème biblique, Caïn et Abel, les deux fils d'Adam et Ève. Ce contexte nous fait donc remonter à l'ère des premiers hommes, juste après le péché originel. Le péché originel fait référence à la Bible, lorsque Ève et Adam, séduits par le serpent, comme nous aujourd'hui sur divers plans, aient l'envie de plus, sans nous soucier des impacts engendrés. Il succombe à la tentation de connaître le bien et le mal, plongeant ainsi l'humanité dans la souffrance. Le texte développe ici une partie de l'histoire qui n'est pas transmise par la Bible, à savoir la fuite incessante de Caïn après qu'il ait tué son frère, pour tenter vainement d'échapper à Dieu et à sa conscience. Le poète, en tant que visionnaire, a pour rôle de guider les hommes. Il fait le lien entre la tradition et la modernité, le passé et l'avenir. Seul, tel un prophète, il communique avec Dieu et fait passer aux hommes un message universel. Mais nous nous interrogeons sur cette conscience. Est-ce la conscience religieuse donnée par Dieu ou bien celle de la conscience personnelle que possède tout homme au plus profond de lui-même? Victor Hugo décrit magnifiquement la conscience que ressent Caïn d'avoir assassiné son propre frère. Mais nulle part, il nous fait la moindre allusion au remords qu'il devrait notamment et normalement éprouver. N'est-ce pas contradictoire avec le sens du récit biblique? Pour moi, ce n'est pas l'œil de Dieu, mais son regard sur lui-même, ou son jugement de lui-même si on préfère. Ce qui semblait être confirmé par le vase, car l'œil au fond du vase est en fait le reflet de son propre œil. Dans ce monde actuel où les technologies ont inventé l'homme, en ce sens qu'elles lui ont permis de développer une pensée conceptuelle, qu'elles l'ont obligé à inscrire son développement dans la dynamique d'une complexité croissante et de devenir tout simplement un être de culture. Le danger de ne plus voir les choses par son propre œil, mais bien par un œil 2.0. Ne nous appartenant pas directement, mais avec une vision déformée que cela engendre. Cette gradation qui s'opère au fil du texte nous met en scène l'évolution des personnes qui cherchent à fuir Dieu et leur conscience. Caïn s'entoure de protection contre lui-même pour éviter de porter ce poids de la culpabilité. Mais cela ne fait qu'accentuer son malaise, car au lieu d'essayer de reconnaître sa faute et de l'expier, il s'enferme dans le refus de voir son péché en face à son propre détriment. Il va même jusqu'à créer une ville pour se dérober de sa conscience. Ville où l'individualisme s'installe, défense à Dieu d'entrer. La société n'est plus accueillante, mais les remords sont toujours là. Aujourd'hui, nous aussi, nous créons des villes virtuelles, fortifiées, afin d'aller à des buts précis, sans penser aux conséquences. Caïn s'isole et en perd sa liberté. L'œil symbolise le poids de la culpabilité, et la tombe traduit cette impossibilité d'y échapper. Par conséquent, l'œuvre de Victor Hugo n'est pas neutre. Elle a une portée précise, celle de nous mettre en garde. En effet, l'histoire symbolise l'éveil du sens moral, mais surtout la fuite face à sa culpabilité. L'auteur cherche donc non seulement à nous avertir de cette erreur qui mène à la tombe, mais aussi à dénoncer les attitudes semblables qui pour lui sont des travers qui touchent tous les hommes à travers les âges. L'apparition de la conscience est plus que lente. Le pire reste clairement de se mentir à soi-même, et également nous cacher derrière une armée de technologies, nous cachant derrière des murs virtuels. En conclusion, Dieu ne nous juge pas. Nous nous jugeons nous-mêmes à travers notre propre conscience.
Merci pour cette lecture poétique à deux voix et Julien pour ce beau commentaire. Tu en as pensé quoi d'ailleurs, Antoine ?
Victor Hugo n'avait pas anticipé à quel point on pourrait se masquer derrière nos écrans, mais je trouve vraiment passionnant, sinon, ce rapport qu'il fait entre culture et fuite de la conscience, alors on pourrait croire que la culture devrait nous aider à déployer cette conscience, plutôt. Est-ce qu'on est sur les réseaux pour se connecter aux autres, ou est-ce qu'on est sur les réseaux pour essayer de reconnecter autrement notre regard sur nous-mêmes ?
En tout cas, d'après ce que j'ai compris, il y en a un qui est déconnecté dans la séquence qui vient, et ben c'est le téléphone. On écoute tout de suite le théâtre.
À la fin de l'envoi, je touche.
Heureux éclat.
Pour Molly Ralston et son mari, c'est le début d'une nouvelle aventure. Ils ouvrent aujourd'hui leur propre maison d'hôte au manoir de Monkswell. C'est comme un rêve qui se réalise, ils sont maintenant leur propre patron. Mais attention, les clients d'une maison d'hôte peuvent être exigeants, Molly en est bien consciente. Et comme elle est plutôt du genre perfectionniste et un peu stressée, elle est sur tous les fronts. Elle voudrait tellement que tout se passe bien. Et tout se passe plutôt bien, sauf qu'il y a un hôte de la maison qui vient la perturber un peu dans son organisation et de manière intempestive. Il s'agit du téléphone.
Allô ? Allô ? Oui, c'est bien le manoir de Monkswell. Maison d'hôte, c'est ça ? Comment ? Non, je regrette, Monsieur Ralston ne peut pas venir au téléphone. Il est occupé. Mais je suis Madame Ralston. Qui est à l'appareil ? La police ? Mais commissaire, ce n'est pas possible ! Il n'y arrivera jamais ! Nous sommes sous la neige ici. Toutes les routes sont coupées. Ah bah non, personne ne peut passer. Oui, très bien, mais que... Allô ? Allô ?
Molly, tu sais si on a une autre belle ?
Gilles, la police vient d'appeler.
Ils ont mis avec la police ?
Ils envoient un inspecteur ou un sergent ou un truc comme ça.
Ils ne pourront jamais venir jusqu'ici.
Et c'est ce que je leur ai dit.
Ils sont stupides, ces flics. Même une jeep ne passerait pas. Ils veulent quoi ?
C'est ce que je leur ai demandé, mais ils n'ont pas voulu me répondre. Ils m'ont juste dit que l'inspecteur Trotter, je crois, allait nous expliquer en arrivant et qu'on devait suivre ses instructions à la lettre. C'est dingue !
Non, on n'a rien fait, nous !
Je réfléchis, je ne vois pas.
On a bien payé la redevance pour la radio, hein ?
Oui, la facture est dans le buffet des cuisines.
Ça a sûrement un rapport avec les chambres d'hôtes. Il y a tellement de règles, de normes. On a dû oublier de faire une demande quelconque, c'est obligé.
C'est bien simple, c'est devenu pire qu'en France.
N'exagère pas quand même.
On n'aurait jamais dû se lancer là-dedans.
La technique, c'est génial quand ça fonctionne, mais quand ça ne fonctionne qu'à moitié, ça perturbe tous nos plans et on peut y passer un temps fou. C'est ce qui a dû vous arriver quelquefois avec l'informatique, non ? Dans la scène qu'on vient d'entendre, l'information que Molly reçoit par téléphone est inquiétante parce qu'elle est partielle. Elle laisse donc s'imaginer plein de choses, alors que la raison de la visite de la police est peut-être tout à fait bénigne. Molly doit se dire qu'elle aurait peut-être mieux fait de ne pas décrocher. Mais à ce moment-là, elle aurait peut-être été encore plus angoissée en s'imaginant que c'était un client de la maison d'hôte qui appelait pour qu'on vienne le chercher. Bref, comme diraient nos grands-parents, c'était plus simple quand il n'y avait pas le téléphone. On vivait bien mieux sans toute cette technologie. Mais voyons justement comment on réagit quand on se retrouve abandonné par la technologie, à devoir se débrouiller sans.
Allô ? Allô ? Madame Ralston, la ligne est coupée. Comment ça ? Le téléphone marchait il y a encore une demi-heure. Le poêle à neige a dû arracher les fils.
Nous sommes donc complètement isolés maintenant. Complètement coupés du monde.
Oh, je ne vois pas ce qu'il y a de drôle.
Ça va, ce n'est pas si grave. Ne soyez pas si sérieux. Chut, Miss Marple revient.
Quand la technique nous lâche, certains s'en passent très bien, voire s'en amusent, peut-être nostalgiques d'une époque révolue. D'autres, au contraire, se laissent gagner par une certaine angoisse. Tiens, petit sondage. Connaissez-vous encore quelqu'un qui vit sans téléphone portable ? Est-ce que vous aimeriez être capable de faire pareil ? Ou est-ce que vous vous demandez vraiment comment il ou elle fait pour s'en passer ? Je vous laisse réfléchir. Mais voyons maintenant les manières de réagir quand la technique ne marche plus et qu'on ne comprend pas pourquoi.
Rien de suspect, j'ai fait un bon rapport au commissaire.
Vous n'allez pas pouvoir téléphoner, la ligne est coupée.
Quoi? Mais depuis quand?
Le major Metcalf a essayé, juste après votre arrivée.
Mais avant ça marchait, non? Le commissaire vous a bien téléphoné.
Oui, mais entre-temps, la ligne a dû être coupée. À cause de la neige.
Bah, pas sûr, elle a dû être coupée par quelqu'un.
Qu'est-ce que t'as fait? Hier, ça marchait très bien. Je t'avais dit de ne pas toucher. À chaque fois que tu touches quelque chose, ça marche plus. Ah, combien de disputes de ménage ont lieu à cause de la technologie? Parce qu'on croit maîtriser complètement le fonctionnement des appareils, si ça marche plus, c'est forcément de la faute de l'autre qui a fait un truc de travers. Bref, les nouvelles technologies nous permettent des choses extraordinaires, mais pour contenir les impacts négatifs qu'elles peuvent avoir sur notre quotidien, il est recommandé d'en user avec un certain discernement. Et si vous voulez faire tout de suite un bon usage de la technologie, prenez en ligne votre place pour la souricière via le site de Réseau Picpus ou la page Facebook. A bientôt, depuis des planches.
J'ai déjà vu la pièce, mais ça m'a donné envie d'y retourner. Dernière représentation le 19 juin, au Passage des Étoiles, dans le 11e arrondissement de Paris. Camille, c'est quoi, toi, ta durée maximale sans téléphone? 2 heures en ayant rongé tes ongles jusqu'au sang?
Détrompe-toi, je suis une personne ultra détachée à ce niveau.
Bon, qu'on les utilise beaucoup ou pas, tous ces appareils n'ont pas poussé sur un arbre. Sébastien, membre de la fraternité Saint-Hildegarde, va nous parler de l'impact qu'ont cette production et cette consommation, pas seulement sur nous, mais aussi sur notre environnement.
Heureux éclats.
Dans la notion de renouvellement et à travers la fresque du numérique qui avait été proposée à Saint-Gabriel il y a quelque temps.
Sébastien, est-ce que tu pourrais juste nous expliquer ce que c'est une fresque du numérique?
La fresque du numérique est un objet pédagogique, ludique, frontière entre les deux, qui permet de mieux appréhender les relations de cause à effet dans la machine climatique et par là même la machine climatique elle-même. À partir de cette fresque du climat, d'autres fresques ont vu le jour, par exemple la fresque du numérique, qui elle se pose la question des conséquences de nos objets technologiques, téléphones, ordinateurs et autres appareils électroniques, et de l'utilisation que l'on en fait, essentiellement à travers les réseaux, du renouvellement de ces objets et des matières premières nécessaires pour les fabriquer, les conséquences de tout cela sur le monde qui nous entoure. Donc dans le cadre de la fresque du numérique, il y a 2 points sur lesquels la notion de renouvellement et de cercle peuvent apparaître. Tout d'abord, il y a la notion de recyclage des objets, où on a l'impression, à travers les médias, à travers le mythe environnemental, que le recyclage nous permettra de reprendre un objet, de tout réutiliser et de recycler au maximum et de façon efficace les métaux, les plastiques, le papier, le verre, les tissus. Alors c'est vrai en partie, c'est vrai complètement pour le verre. Par contre, il faut bien comprendre que pour les plastiques et pour les métaux, le recyclage a ses limites, dans la mesure où il est très difficile de recycler des alliages et dans la mesure où il est très compliqué d'obtenir les bonnes qualités du plastique pour du plastique recyclé. Donc recyclage certes, mais donc à travers la fresque du numérique, vous apprendrez qu'il s'agit plus de décyclage que de recyclage, dans la mesure où les matières premières, malheureusement, vont être détériorées un petit peu à chaque cycle de recyclage. Donc plutôt décyclage que recyclage. Et la deuxième chose, c'est qu'à travers la technologie, donc on a des technologies qui nous poussent à renouveler nos objets, à les changer, et finalement, à travers ces cycles de produits qui apparaissent, on voit apparaître une notion qui nous pousse un petit peu à la consommation, à un cycle de consommation, à un cycle de renouvellement. Et derrière ça, il y a 3 notions d'obsolescence qui sont mises en avant par la fresque du numérique, 2 notions qui sont relativement connues, donc l'obsolescence matérielle, l'objet est prévu pour casser, il casse, une notion qui est relativement connue également, qui est l'obsolescence logicielle, qu'on voit de plus en plus dans nos appareils électroniques, que ce soit les téléphones, les ordinateurs, où pendant quelques temps tout se passe bien, et puis au fur et à mesure des mises à jour, votre téléphone met de plus en plus de temps. Vos logiciels demandent à être changer, pour, enfin renouveler dans leur version pour pouvoir continuer à fonctionner. Et au bout d'un moment, demande à ce que vous changiez la version de votre téléphone pour pouvoir continuer à fonctionner sur le téléphone. Vous vous retrouvez, si vous refusez ça, à ne plus pouvoir utiliser certains logiciels. Et à travers là, donc la notion d'obsolescence psychologique qui est mise en avant par la fresque du numérique, qui est une notion intéressante, donc à travers la publicité, à travers la pression sociale, à travers l'habitude de nos voisins, à travers la pression technique des logiciels qui sont mis dans les objets et qui vous disent changez votre mettez à jour votre système d'exploitation. Ben, finalement, on va se retrouver à considérer comme obsolètes des objets qui en réalité sont tout à fait fonctionnels. Donc là où il y a quelques décennies, quelques siècles, un objet était fait vraiment pour durer jusqu'à ce qu'il casse de sa belle mort, d'une vraie usure du temps en années ou en décennies. On se retrouve aujourd'hui avec des objets moins chers, plus rapides à fabriquer, mais qui non seulement consomment des matières provenant des quatre coins du monde, mais également sont prévus pour ne pas durer. Et la technologie d'un côté et la société de l'autre nous obligent à les changer d'une manière beaucoup plus régulière. Si certains sont intéressés par la fresque du numérique ou par la fresque du climat, n'hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions organiser une session un jour ou l'autre, soit en cette fin d'année, soit cet été, soit l'année prochaine.
Les roses éclatent.
Si ça continue, Camille, je vais croire que toi aussi, t'es un exemple d'obsolescence programmée. Quand est-ce qu'on met à jour ton système pour supprimer les défauts ?
Ah mais c'est pas vrai ! Tu crois que toi, t'as un impact positif sur ton environnement avec ton humour pourri ?
Allez, l'humour, ça fait pas de mal. Ça permet d'alléger un peu la réalité, la retoucher un peu, lui donner une autre étincelle. Un peu comme ce que nous propose maintenant la chorale.
On écoute Atsigan Idiot, tiré du film russe Roman Cruel, interprété par la chorale Picpus Singing.
Aujourd'hui, qui dit production musicale de qualité dit technologie. Il est de plus en plus facile, en effet, de transformer grâce à elle une prestation médiocre en quelque chose de tout à fait audible. Grâce à un enregistrement avec des micros, on peut fixer le temps qui passe et compléter, voire supplanter, le travail de la mémoire humaine. Mais la technologie permet également de modifier notre perception du temps et de l'espace. Il est facile, par exemple, de faire chanter à des chanteurs ce qu'ils n'ont pas chanté, en modifiant quelques notes ou la tonalité tout entière d'un morceau après coup, ou de faire croire qu'ils ont chanté dans une cathédrale plutôt que dans une cuisine, en ajoutant de la réverbération. On peut aussi ralentir ou accélérer une performance. Et grâce à Internet, tous ces outils sont vraiment à portée de main de chacun. Pour bien comprendre ce que peut apporter la technologie à la musique, L'idéal aurait été de vous présenter la comparaison entre un matériau brut et un produit lissé après tout un tas de traitements informatiques. Vous auriez ainsi pu entendre la transformation d'un extrait de répétition où tout le monde chante faux, où personne ne respecte le tempo donné, bref, quelque chose de chaotique en un tube de l'été. Hélas, avec Picpus Singing, c'est mission impossible. Ils chantent trop bien. Donc dans le cas présent, j'ai tenté d'apporter un peu de nouveauté et une petite touche créative à une version a cappella tout à fait correcte d'un de nos chants, en insérant ça et là des passages coupés du chant mis à l'envers. C'est ce qu'on appelle l'effet reverse. En ajoutant de la réverbération pour simuler un plus grand espace, ou en ajoutant enfin un effet delay qui crée comme un écho. J'ai également nivelé ou rééquilibré les fréquences graves et aiguës avec un equalizer afin de donner un peu plus de dynamique à certains passages, quitte à caricaturer un peu. Ce que vous entendez est donc une version toute nouvelle d'une chanson populaire russe que nous interpréterons lors de nos prochains concerts. Jeu de questions-réponses, polyphonie, introduction d'effets capables de transformer en temps réel une voix en synthétiseur, toutes les nouveautés sont permises avec ces technologies. Pour le meilleur et pour le pire.
Grégoire a raison, on peut vraiment bonifier un morceau grâce aux machines. Lorsqu'on enregistre en studio, à condition bien sûr que chaque instrument ou voix enregistre séparément, il est possible de faire un travail de correction rythmique ou mélodique sans que cela soit perceptible ensuite par l'auditeur. Les ingénieurs du son sont généralement équipés de logiciels permettant de corriger la hauteur des notes, comme Melodyne ou Autotune. Dans le rap français d'aujourd'hui, de nombreux artistes ont même généralisé l'utilisation d'autotune pour les enregistrements et sur scène, et cela donne souvent cette couleur un peu métallique aux voix. Ça permet certes d'être juste, mais au détriment, je trouve, d'une certaine chaleur, car l'imperfection est indispensable pour conserver ce côté humain et émouvant des créations artistiques. Mais la technologie au service de l'art, c'est bien plus que ça. En matière de création musicale et de recherche technologique, l'IRCAM, un acronyme signifiant Institut de Recherche et de Coordination Acoustique Musique, qui se situe au cœur de Paris, près du Centre Pompidou, est un lieu à la pointe en matière de recherche scientifique et technologique appliquée à la création. Il serait trop long d'énumérer tout ce qu'ils font dans ce domaine depuis environ 50 ans, mais en guise d'exemple, je voulais parler du principe de temps réel qui a beaucoup été développé là-bas, grâce à des chercheurs et des compositeurs comme Philippe Manoury ou Pierre Boulez. Pendant longtemps, quand on voulait associer musique électronique et instruments acoustiques, ce qu'on appelle donc musique mixte, on utilisait des sons électroniques fixés sur support que l'on diffusait pendant que l'interprète jouait. L'ennui, c'est qu'il n'y avait pas d'interaction entre le musicien et cette bande sonore. C'est ainsi qu'est né le temps réel. Grâce à de nouveaux logiciels, ce que joue le musicien est analysé et traité par un ordinateur qui réagit en construisant une partie électronique en temps réel à la proposition musicale. L'interaction entre l'homme et la machine devient alors possible.
Les roses éclats.
Moi, personnellement, en tant que choriste, je préfère plutôt sans les effets.
En fait, t'es une grosse réac, tu détestes toute la nouveauté.
Mais dans tous les cas, c'est vrai que ça donne des possibilités de renouvellement de choses qu'on croit connaître à fond. Mais si vous voulez nous écouter en vrai, on chante le 18 juin à l'église Saint-Éloi à 20h45.
Est-ce que tu penses que c'est équivalent d'écouter une musique enregistrée et en vrai?
Non, je pense qu'il y a quelque chose d'irremplaçable quand même. Même si, parfois, l'enregistrement peut gommer quelques défauts et être techniquement meilleur.
Eh bien, c'est exactement notre sujet, mais dans le domaine spirituel. Le père Christian a pris la place de Quentin, le sous-aumônier.
L'aumônier adjoint, on dit.
Pour faire la minute spi, et il va conclure avec un sujet ouvert dans l'interview du début de cet épisode sur la question de la présence réelle.
Podcast Lire aux éclats. Lire aux éclats.
Alors, quel lien entre la technique, la technologie, la nouveauté et la présence réelle? Parler de présence réelle nous ramène à un élément qui est au cœur de notre tradition spirituelle dans la congrégation des Sacré-Cœurs. La présence réelle, c'est tout simplement Jésus présent dans l'Eucharistie. Dans un monde où parfois ce qui est marquant, c'est ce qui se voit, ce qui est rentable, ce qui peut être évalué à partir du faire, et qui prend si peu en compte ce que nous sommes, la présence réelle du Christ ressuscité dans l'Eucharistie nous amène à prendre le temps de regarder tout ce qui nous est donné, regarder tout ce qui nous est offert, notre manière de voir. Et donc nous devons nous demander, mais comment accueillir cette présence ? Je crois qu'il y a une prière qui nous met d'une manière particulière, je dirais même presque unique, en lien avec la présence réelle, c'est la prière d'adoration. Certains pourraient peut-être penser que ces temps d'adoration, ces temps où nous nous rendons présents à celui qui est présent au milieu de nous, certains pourraient penser que c'est du temps un peu perdu ou un temps inefficace, à l'opposé de la technique qui est basée sur la rentabilité, sur l'efficacité du faire. Eh bien, en réalité, ce n'est pas l'opposé, mais c'est un remède. L'adoration donne profondeur et sens à nos diverses relations, car nous entrons dans cette prière avec tout ce que nous sommes, avec l'exigence de la vérité de ce que nous sommes, de ce que nous portons en nous. Nous y entrons avec nos limites, nos faiblesses, mais les limites et la faiblesse ne sont pas des obstacles à la prière d'adoration. Au contraire, c'est le rappel que c'est avec tout ce qui fait notre vie et notre humanité que nous entrons en communion, que nous entrons en relation avec le Christ qui est présence réelle auprès de nous, en relation avec tous ceux que nous croisons dans notre vie, tous ceux avec qui nous faisons chemin. Nous avons fait cette expérience qu'il n'y a pas de véritable présence en distanciel. La prière d'adoration, ce n'est pas quelque chose à faire, ou une méthode à posséder, mais c'est davantage l'apprentissage d'une attitude à offrir qui consiste à se rendre présent, attentif, écoutant, en communion avec le Christ qui est là auprès de nous, qui fait route avec nous. Plusieurs figures de sainteté nous parlent de ce lien unique qu'ils entretiennent avec Dieu, présent auprès d'eux, dans l'Eucharistie. Saint Damien, qui est un homme d'action, qui a donné sa vie pour soigner les lépreux, qui a été lui-même lépreux, nous dit « Sans l'adoration, sans la présence de notre divin maître rencontré dans l'adoration, une position comme la mienne serait intenable. Et saint Damien mourra lépreux au milieu des lépreux, mais en disant « Je crois que je suis le plus heureux des hommes au milieu de mes chers lépreux. » Qu'est-ce qui s'est passé pour Damien? Il a expérimenté que sa mise en présence avec le Christ ressuscité, qui se fait don, accueil, écoute, pardon, miséricorde, cette expérience a profondément marqué sa vie. Et il découvre aussi qu'il n'est plus seul. Sa force ne vient pas uniquement de ce qu'il sait faire ou de ce qu'il veut faire, mais sa force est soutenue par cette présence qui l'accompagne. Voilà la réalité de la présence réelle. Cette présence réelle dans le pain eucharistique est puissance d'amour qui façonne notre vie, qui nous renouvelle dans notre capacité d'aimer et de servir. L'adoration nous invite aussi à contempler, non pas à poser un regard furtif, rapide, passager sur le Seigneur qui se rend présent, mais à demeurer avec, c'est-à-dire à poser nos vies en Dieu. Et c'est un Dieu qui nous dit que nous sommes créés pour la vie et pour aimer. Le Christ nous apprend aussi à nous émerveiller, à rendre grâce, à dire merci. Alors nous pouvons nous demander peut-être qu'est-ce qui changerait dans ma vie si je savais offrir ma vie au Seigneur, si je prenais le temps d'accueillir sa présence, de l'accueillir parce qu'il marche avec moi. Et pour cela, je vous invite à essayer, à faire cette expérience de la prière d'adoration.
Les éclats.
Merci beaucoup, Père Christian. Comme vous savez peut-être, il y a une adoration à la chapelle de Picpus à 20h, tous les premiers vendredis du mois, hors vacances scolaires. Bon, avec certaines des phrases, on va finir par croire qu'on est ultra anti-technologie. Non, on aime bien, hein. D'ailleurs, sinon, on ne ferait pas de podcast. Qu'est-ce que tu retiens de cet épisode, Antoine?
Que la réalité, c'est compliqué et simple. Enfin, on reçoit tellement de choses et on ne sait même plus comment et grâce à quoi, et on finit parfois par perdre des repères nécessaires. Mais une fois qu'on est bien ancré, ça permet vraiment des choses merveilleuses, comme par exemple ce podcast.
Bon, il faut qu'on vous annonce que cet épisode est aussi le dernier de la saison. Et oui, comme c'est un projet en lancement, on a commencé tard. Mais la saison prochaine s'annonce dingue! On vous attend à la rentrée avec des surprises.
Comme toujours, un grand remerciement à tous les contributeurs de l'épisode et en particulier à Emmanuel Brochier. Toutes les informations complémentaires sont dans les crédits sur la page podcast du réseau.
On espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter ces épisodes que nous à les faire, que votre vie est, ne serait-ce qu'un tout petit peu, renouvelée depuis le début de cette aventure. Bon été à tous, même pour ceux qui n'ont pas de vacances.
Et si vous n'avez pas de soleil, on vous souhaite au moins l'amour des Sacré-Cœurs pour bronzer intérieurement. À très vite.
Podcast Lire aux éclats.
Voici, je fais toute chose nouvelle.
Nous sommes dans une aventure incertaine.
Lire aux éclats.